qui confirme avec une certitude de plus de 90% la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique actuel. Bon week-end sur la première. Dans un instant, 9h30, le temps de retrouver Florence Farion et la Smala.
La Smala, avec le réseau de pharmaciens Pharmacie Plus.
Écoutez, oh,
mamma mia, c'est un peu la pochette surprise.
Choyé, cajolé.
C'est des racines, c'est
la Smala.
La Smala.
On se demande où est le père, où est le fils, on ne sait plus. Quel est celui qui déconne le plus? On ne sait pas.
C'est chaque fois une affaire de famille.
La Smala.
Bienvenue dans la Smala jusqu'à 11h sur Radio Suisse Romande. La première, il sera largement question d'identité et de sexe. Avec Sarah Diren et Mélanie Croubalian, durant une heure entre 10h et 11h, et même déjà maintenant, on va commencer à réfléchir sur l'identité des filles et l'identité des garçons. Les filles sont forcément plus bavardes, elles sont habillées en rose, les garçons sont plus actifs, ils sont habillés en bleu, ça va de soi, ils sont beaucoup moins romantiques. Est-ce que nous sommes vraiment différents? Qu'est-ce que fait l'éducation au milieu de tout ça? Enfin, des multiples questions qui vont se poser.
Est-ce que nous sommes vraiment différents, Florence? Oui et non. Nous sommes biologiquement différents, c'est-à-dire que nous naissons avec un sexe de fille ou un sexe de garçon. Un sexe donc biologique, mais nous ne naissons pas avec un sexe social, c'est-à-dire avec une préférence pour le rose si on est une fille ou le bleu si on est un garçon. Alors au lieu de dire « sommes-nous vraiment différents ?», pour l'interrogation, la question qu'on pourrait se poser c'est « sommes-nous éduqués de la même manière si l'on est une fille ou si l'on est un garçon ?»
Le rôle des parents, on y vient.
Par exemple, oui, mais pas seulement des parents, de la société en général. Et on serait tenté de dire « oui, hein, aujourd'hui, vive l'égalité ». Eh bien non, nous ne sommes pas éduqués de la même manière. C'est dans tous les cas ce que nous allons démontrer, vous démontrer, entre 10h et 11h, à travers notamment la publicité, les jouets. Mélanie Croubalian s'est rendue dans une famille pour y rencontrer des jumeaux. Garçon-fille, bien sûr, pour observer s'ils sont socialisés de la même manière, comment se forge l'identité sexuelle. Par exemple, vous savez que les enfants, jusque vers l'âge de 5-7 ans, se savent garçon ou fille, non pas parce qu'ils ont un sexe de fille ou de garçon, mais parce qu'ils ont des cheveux courts, une voiture pour les garçons, ou une
robe
poupée,
pour les petites filles.
Une robe pour les petites filles. Voilà, c'est très étonnant.
Il faut donc attendre, qu'est-ce que vous avez dit, 5-7 ans, pour qu'ils se disent vraiment, que se ressentent garçon ou fille.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont garçon-fille grâce à un attribut sexuel, c'est-à-dire biologique, c'est-à-dire leur sexe. C'est assez surprenant, mais nous avons testé dans une crèche un résultat à découvrir à partir de 10h05. C'est un petit test effectué en compagnie de la psychologue genevoise Anne Daflon-Novel, qui signe un livre collectif remarquable, Fille, garçon, socialisation différenciée, point d'interrogation. De nombreux chercheurs font le tour de la question dans leur spécialité, des regards historiques sur nos modes d'éducation, sur la mixité dans les écoles, les sports dévolus aux garçons ou aux filles, même des articles sur la médecine et les pratiques différenciées liées au sexe. Un livre vraiment de référence, le seul à ma connaissance aussi complet. Alors je vous propose, pour vous mettre en bouche, d'écouter Anne Daflon-Novel. Je vais demander si à la naissance, un garçon était si différent d'une fille.
En termes de population de bébés, il y a plus de différence entre les filles, entre les garçons, que entre une fille ou un garçon. Par contre, ce qu'on va constater très rapidement, c'est que dès le berceau, filles et garçons ne vont pas être socialisés de la même manière. Ce qui fait qu'effectivement, il va y avoir certains types de comportements qu'on va retrouver plus fréquemment chez une fille et d'autres plus fréquemment chez un garçon, ce qui va être expliqué par la biologie, par les parents. Par contre, ce qui n'a juste rien à voir avec la biologie, c'est quelque chose de socioculturel.
Dire par exemple que les filles sont plus intuitives, elles sont plus à l'écoute de l'autre, tout ça c'est faux?
En fait, je peux pas vraiment dire que ce soit faux. Ce qu'on constate de nouveau, c'est que c'est quelque chose qui a à voir avec la socialisation, à voir avec par exemple les jeux qu'on propose aux filles ou aux garçons, puisque les jeux proposés aux filles sont beaucoup plus axés sur la coopération, l'entraide, l'altruisme. Donc automatiquement, ça va développer ce sens-là chez l'enfant qui va jouer avec ce type de jeu-là. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être à la base une fille ou un garçon.
Et ça va, et on va traîner ces caractéristiques toute notre vie, évidemment.
Exactement. Oui, non, mais ça c'est clair. Avec, en plus, les représentations que ça engendre et les fameux livres qui renvoient les hommes et les femmes à différentes planètes. en associant ceci à la biologie. C'est-à-dire que ce qu'on constate maintenant, c'est que les parents et puis les gens, en fait, qui travaillent avec des enfants, ont la représentation que l'égalité des chances, elle est acquise. Que filles et garçons ont la même éducation. Alors c'est vrai, l'école est mixte, les programmes scolaires sont identiques aussi bien pour les filles que pour les garçons, mais ça ne veut pas pour autant dire que filles et garçons sont socialisés, éduqués, pensés, projetés de manière identique à propos de tous les différents objets de socialisation qu'on peut leur proposer. On peut penser au sport. C'est-à-dire qu'on va voir que les petits garçons vont massivement investir les terrains de foot, alors que les petites filles, on les trouvera beaucoup plus fréquemment en train de faire de la danse ou bien de la gymnastique. Puis c'est pas le même type de sport. Foot, c'est plutôt un sport collectif, mais sport collectif, en fait, où on va exercer la compétition. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans la mesure où ça a une implication. C'est-à-dire que un coup on gagne, un coup on perd. Parce qu'automatiquement, il y a une équipe qui va gagner, une équipe qui va perdre. Donc du coup, l'impact que va avoir l'échec sur l'estime de soi va être moindre que si c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de faire, la compétition. Et c'est quelque chose qui a aussi un lien avec les normes d'attribution. C'est-à-dire qu'un garçon, quand il réussit quelque chose, il va l'attribuer à une cause interne. Une fille, lorsqu'elle réussit quelque chose, elle va l'attribuer beaucoup plus à une cause externe. Du style, j'ai eu de la chance, l'épreuve était facile, etc. Quand c'est un échec, c'est l'inverse. La fille, elle va attribuer l'échec à une cause interne, à elle-même. Elle n'a pas réussi, mais c'est parce qu'elle n'a pas été bonne. Alors que le garçon, lui, va attribuer l'échec à une cause externe. Il n'a pas réussi, c'est parce que l'épreuve était trop difficile, le prof a été trop sévère envers lui-même, ou quelque chose de ce type-là. Donc, automatiquement, l'échec ou la réussite va pas avoir la même implication sur l'estime qu'on a de soi-même.
La moitié de 24.
12.
Le quart de 24.
6.
La moitié du tiers de 24 plus la moitié de 12, c'est le tiers de combien?
De 30.
Bon, très bien.
On constate vraiment que ce qui est proposé aux enfants, et là je pense notamment à ce qui est proposé d'un point de vue secteur commercial, hein, ce qui est proposé aux enfants est sexué, et ceci de plus en plus tôt. On peut regarder les décorations des chambres, dans les catalogues d'ameublement, bah, vous verrez que c'est pas les mêmes chambres. L'ordinateur, si vous regardez dans quelle chambre est-ce qu'il se trouve, quasi systématiquement, vous le verrez dans la chambre qui est plutôt dévolue aux garçons, et vous verrez rarement l'ordinateur dans la chambre dévolue à la fille. En fait, surtout ce qu'on va constater, c'est que du coup, pour de plus en plus de choses, on va se demander si c'est pour une fille ou si c'est pour un garçon. Alors qu'en fait, on pourrait juste se dire, c'est pour un enfant. C'est le fait de dire, non, telle ou telle chose est plutôt réservée à un enfant en fonction de son sexe. Et c'est ce qui est dommage. Parce que, bah, si on reprend l'exemple des jouets, du coup, ça va plutôt orienter les enfants vers différents types de professions.
C'est un retour en arrière?
Pour moi, oui. Enfin, en tout cas, c'est une évolution excessivement paradoxale. Alors, pourquoi est-ce que je vais parler d'évolution paradoxale? Parce que si on fait un retour en arrière de plusieurs décennies, eh bien, on voit qu'ils étaient élevés dans une relative indifférenciation jusqu'à leur entrée dans la vie publique. Ils étaient tous habillés pareil, en robe, ils avaient des cheveux longs. Je dirais quelque part, la poupée, c'était le jouet préféré de tout le monde. Néanmoins, on savait très bien que ces enfants allaient avoir des destins différents. Le destin de la future femme était plutôt dans la sphère privée, alors que le destin du futur homme était plutôt dans la sphère publique, avoir une profession, etc. Alors qu'actuellement, en fait, je dirais, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en termes de destin, maintenant, avec la mixité, donc la mixité scolaire, avec l'accès, en fait, à toutes les professions pour n'importe quel sexe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une école professionnelle ou une formation professionnelle qui soit interdite à un sexe ou à l'autre, eh bien, effectivement, on a l'impression que ces destins sont excessivement ouverts. Seulement, si on regarde justement dans ce qui est proposé aux enfants des tout-petits, eh bien, on voit qu'ils ne sont pas socialisés pareil et que les objets qu'on leur propose, au contraire, eux, sont excessivement différenciés selon qu'on soit une fille ou bien selon qu'on soit un garçon. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va avoir une influence sur les choix que les jeunes vont faire plus tard, arriver au moment de l'adolescence. Parce que quand on regarde effectivement que le secteur professionnel est ouvert aux deux sexes, c'est pas pour autant qu'il y a une mixité professionnelle dans n'importe quel type de profession. Ça change, mais ça change un tout petit peu, ça change pas beaucoup. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'on propose aux enfants d'aussi sexué dès la prime enfance ne pourrait pas avoir une influence sur le fait que ça ne change pas plus que ça? C'est une question que je me pose.
C'est tout ce que tu feras quand tu seras grand?
Probablement physicien ou chimiste.
Probablement. Et toi?
Je n'ai encore aucun projet en vue, mais je pense devenir médecin chirurgien.
Je pense que je serai architecte, très probablement.
Est-ce qu'il y a encore une fille peut-être?
Je m'appelle Micheline Goul et j'ai l'intention de devenir décoratrice, secrétaire privée.
Je pense devenir hôtesse.
Avec un détour par les archives, Jean-Philippe Solène est allé chercher deux ou trois choses et on se régalera tout à l'heure entre 10h et 11h parce que nous restons dans ce même sujet sur la différence finalement entre filles et garçons à travers ce livre qui vient de sortir, Filles, garçons, sociabilisation.
Socialisation différenciée, oui, nous serons en plein dans les études de genre grâce notamment à Anne Daflon-Novel qui dirige ce collectif. Je rappelle qu'Anne Daflon-Novel est docteur en psychologie et actuellement elle collabore à la Faculté des sciences économiques et sociales à l'Université de Genève. Elle est responsable justement d'une enquête portant sur les obstacles institutionnels aux carrières féminines académiques. Tout un programme.
Voilà, et c'est donc un livre qui est préfacé par la présidente de la Confédération, par Micheline Calmiret. Donc tout à l'heure, entre 10h et 11h, multitude de sujets, commentaires, sujets de réflexion, évidemment, autour des filles et des garçons. Mais pour l'heure, un peu de musique, soit Brigitte Bardot qui n'a peur de personne en Harley Davidson, avant de retrouver un homme des îles. Antoine, à tout de suite.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. De mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de mourir les cheveux.
Il est né en 1944 à Madagascar, dans une île. Il est né Pierre-Antoine Muraccioli, mais c'est sous le nom d'Antoine qu'on le connaît. Antoine, chanteur énervant des années 60, mais disparu un peu de la scène musicale. Quoique, pour revenir via les voyages, on sait que c'est un grand voyageur. Il était d'ailleurs, Lucille Solari, là où vous l'avez rencontré à Genève, de passage pour présenter un des films qu'il réalise sur ses voyages. Il vit de ça maintenant, quasi. Hein.
Bah oui, il faut bien se donner les moyens de ses rêves. D'ailleurs, pour vous, Antoine, c'est plutôt « Oh yeah !» ou c'est plutôt « Les opticiens !»
J'aurais plutôt dit oyez quand même.
Ouais, quand même. Faut remarquer, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que ce soit la chanson ou la pub, bah, c'est ça qui lui a donné les moyens financiers, bien sûr, d'assumer ses envies de large. En 66, sa mère lui demandait d'aller se faire couper les cheveux. 40 ans plus tard, il les a toujours aussi longs et il a la barbe aussi fleurie que c'est légendaire.
Chemise. Je l'ai vu même sur son site internet en photo en chemise hawaïenne au milieu de la neige.
Oui, exactement.
Jusqu'au bout.
Je l'ai vu, on a vu la même. Bon, Antoine est un optimiste, j'ai envie de dire un optimiste indécrottable, qui a décidé une fois pour toutes que la vie était trop courte pour s'habiller triste, donc, et pour se faire prendre dans les filets d'une famille. La sienne, il l'a quittée pratiquement à 17 ans, pas tout à fait, mais déjà à 17 ans, il était sur les routes, ce qui ne l'a pas empêché d'être d'ailleurs un brillant élève ingénieur, vous le savez. Et entre 66 et 69, donc, il fait idole des jeunes, et puis en 74, il prend le large avec son premier voilier et l'aventure était prévue avec des copains. Les copains se désistent, il part tout seul et il n'a jamais arrêté depuis, à part quelques escales, pour faire chanteur, pour faire écrivain et pour faire de la pub. Bref, pour pouvoir continuer à voyager.
Il s'est bien mené sa barque, si on peut dire.
Elle l'amène même très bien. Je l'ai donc rencontré à la salle centrale à Genève où il présentait, vous l'avez dit, son dernier documentaire, film donc consacré à Madagascar. Plus exactement aux beautés de Madagascar, hein, parce qu'il n'aime pas tellement filmer les problèmes économiques ou politiques. Et je lui ai posé la traditionnelle question. Antoine, vous êtes plutôt famille je vous aime ou famille je vous hais?
Je suis plutôt entre les deux, disons plutôt famille. Je vous aime quand même, mais j'ai jamais été quelqu'un de très famille. J'ai toujours été, jamais de haine, mais j'ai toujours été très indépendant. Dès l'enfance, j'étais plutôt solitaire, et je dois reconnaître que, sans aucune animosité envers mes parents, que j'ai toujours bien aimé, particulièrement mon père, dont j'ai de très excellents souvenirs, dès que j'ai pu, j'ai pris mon indépendance, c'est-à-dire que je me rappelle, par exemple, que j'étais à Grenoble, habitant encore dans l'appartement de mes parents, et puis j'ai découvert qu'il y avait la maison des élèves, le restaurant de la maison des étudiants en face, et j'ai demandé gentiment à ma mère si je pouvais pas aller y manger de temps en temps, ça ferait moins de travail et tout. Et puis, sitôt que ça a été le cas, j'ai pratiquement plus jamais pris un repas chez moi, dans la famille. Et puis, sitôt que, ensuite, quand je suis arrivé à l'âge de partir faire mes études à l'école centrale, lorsque j'ai pris le train, j'étais parti. Ma mère pensait sans doute que j'allais revenir tous les week-ends ou les vacances et tout, mais moi, j'avais déjà pris ma liberté.
Le soir tombe sur cette route, en passant vous souriez, vous vous amusez sans doute de ce que je suis à pied. Cela vous semble inutile, il doit être simple ou fou. Et vous regagnez vos villes, je suis très bien partout.
Mon père est corse, insulaire déjà, et puis il était parti travailler pour la France d'outre-mer, qui s'appelait les colonies françaises à l'époque. C'est ce qu'il a amené à Madagascar, où je suis né, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Cameroun, on a failli aller à Tahiti aussi. Mais c'est vrai que, ayant changé, de par le travail de mon père, ayant changé de domicile, ayant changé de chambre, de lit, de copains, de relations, de cadre géographique, tous les ans à peu près, je suis forcément différent de celui qui a vécu toujours dans une famille fermé dans un lieu donné, toujours dans la même chambre, avec les mêmes copains tout au long de sa scolarité. Moi, j'ai jamais eu des copains plus d'une année de suite, quoi.
Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je gagne beaucoup d'argent, mais quand j'en avais peu. Je n'étais pas plus malheureux, oui, mais je n'étais pas plus heureux. Je suis comme ça pour moi, pas pour vous. Comprenez-le, ce que je pense. Et merde.
À part un enfant qui bouge beaucoup, quel fils pensez-vous avoir été pour votre père et pour votre mère?
Enfant, petit, j'étais un peu chiant. Un jour, on a rencontré à Saint-Pierre-et-Miquelon la bonne, ça s'appelait la bonne à l'époque, qui employait une maison, quoi, qui s'était occupée de nous. La petite dame était toute petite et tout, et très âgée. Elle dit, comment il était Antoine quand il était petit? Et elle a dit, il était gueulard. Il était gueulard.
Gueulard?
Gueulard, quoi. Ah ouais. Non, je devais être un peu chiant quand j'étais petit. Mais sinon, ensuite, j'étais, je devais être un bonheur d'enfant puisque j'ai pas eu de crise d'adolescence, j'avais des bonnes notes, j'ai suivi petit à petit les rails des meilleurs élèves, classe préparatoire aux grandes écoles, école centrale, etc. Et puis lorsque par contre je suis arrivé à l'âge adulte, à 21 ans, et que je me suis aperçu que la carotte derrière laquelle on faisait courir le diplôme, le beau diplôme qu'il fallait obtenir, eh ben suivi par une autre carotte qui serait l'avancement dans la carrière et ainsi de suite, et que on serait jamais ce beau rêve, ce beau projet de carrière toute droite, toute tracée, le succès et tout, eh ben que c'était pas pour moi, que c'était pas ça qui me plaisait, que moi je voulais une aventure plus honnête, plus sincère, plus authentique, quoi. Eh ben ça m'a frappé tout de suite, quoi. C'était clair comme ça. Et mes parents, mon père lui n'a pas été, ma mère elle était moins cool, quoi. Ma mère, elle prenait peur. Qu'est-ce quand elle a vu partir sur la route, en autostop, me balader et tout, elle prenait peur. Mon père, lui, il était plutôt content. Il était plutôt ravi parce que c'était, mais, un peu une chose qu'il avait rêvé de faire dans son adolescence, dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, il était parti en Afrique, en Algérie. Il avait choisi un métier très voyageur. Donc, il aimait ça. Donc, quand je me suis mis à voyager, ça, l'idée lui plaisait beaucoup. La chanson, ça lui gênait pas du tout que j'aille faire de la chanson, que j'aille faire toutes sortes d'aventures comme ça.
Oui, j'allais vous demander, quand vous êtes devenu idole des jeunes dans les années 60, vos parents ont réagi comment ?
Ma mère était un peu déséquilibrée, quoi. Ma mère, elle avait un peu de mal à encaisser ça, mais mon père, lui, était ravi. Ma mère ensuite est décédée, et puis les dernières années de sa vie, mon père avait retrouver une seconde jeunesse, quoi. Il voyageait beaucoup lui-même, il traversait la France, il partait bout à l'autre de la France, et puis il m'a suivi en tournée, je crois qu'il était content de cette aventure-là, quoi. S'il avait été encore en vie quand je suis parti en bateau, je suis sûr qu'il m'aurait rejoint de temps en temps pour naviguer ou pour faire un petit séjour dans une île lointaine.
Et ça vous aurait plu ?
Oh, je pense que ça m'aurait plu, j'avais un très très bon contact avec lui, quoi. Mais en même temps, j'étais totalement indépendant, quoi. Faut pas prendre le terme mal en agressivité. Je me désolidarisais de mes parents, quoi. C'est-à-dire que à un moment, eh ben, on prend son envol et on vire. J'ai jamais été famille de ce côté-là. Bon, mes parents sont décédés assez rapidement, mais de toute façon, j'ai jamais été partisan des réunions de famille. Je vois des gens qui ont des réunions familiales, les frères, les sœurs, les cousins, tous les ans ou même plus, ou qui vont dîner ensemble. Moi, c'était jamais mon cas, quoi. Je suis parti.
Moi qui suis si désintéressé, laissez-moi rire. Hé, hé, hé. Laissons-le rire. Hé, hé, hé. Laissez-moi rire. Hé, hé, hé. Laissons-le rire. Hé, 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 hé.
C'est certain que c'est la période dans les années 60 où on a remis en question le côté tellement conventionnel et tellement nucléaire de la famille. Moi, j'ai eu la chance de partir vers la Polynésie. Ça veut pas dire que c'est tout simple. Le paradis terrestre d'autrefois n'existe plus là-bas non plus. Mais où le concept de la famille est plus vaste, quoi, où l'adoption n'est pas une chose aussi mutilante, aussi éprouvante que chez nous. Les familles, il existe deux genres de familles. La famille biologique et la famille femme, où c'est-à-dire qu'un enfant peut être élevé par une autre famille, mais de façon tout à fait transparente, quoi. Il sait très bien que son papa biologique, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Depuis toujours, c'est la tradition, et ça va très bien, quoi. Et jamais un enfant orphelin va se retrouver dans un orphelinat. Il y a toujours un autre membre de la famille très élargi qui va l'adopter, quoi.
Ça rappelle un peu la philosophie hippie des années 70. Il y a eu des tentatives de vie communautaire dans ce sens-là, à cette époque-là.
Oui, c'est certain. C'est certain que la famille nucléaire que nous avons ici, je pense aussi bien en Suisse qu'en France, c'est un peu un artifice qui a été un jour... Un ami très croyant me disait, mais quand même, c'est Dieu qui a dit un homme, une femme, des enfants. Oui, c'est peut-être Dieu qui l'a dit, mais c'est surtout la société qui l'a dit. Surtout la société qui s'est aperçu que c'était la façon la plus efficace de garder les gens en place, de les faire travailler, de les pacifier, quoi. C'est ce qui est utile, ce qui est pas du tout inutile. Mais dans les années 70, on a commencé à envisager qu'il pouvait peut-être y avoir des façons un peu plus... Bon, ça veut pas dire que ce soit toujours heureux, la réussite, mais enfin, c'est vrai que depuis, les familles tuyaux de poils, comme on dit, ça a explosé, quoi. Il y a beaucoup plus d'enfants. C'est pas toujours forcément... positif, mais c'est souvent réussi quand même. Les familles où de père, la mère se sont séparées, d'autres se sont retrouvées. À Tahiti, c'est courant d'entendre un message à la radio. Traditionnellement, ils s'envoient des petits messages comme ça, et on entend quelqu'un qui dit c'est pour mon autre papa dans l'île de Rangiroa, ou bien des choses comme ça. Quoi. C'est très libre quoi, là-bas, c'est très clair. Il n'y a pas de grosse culpabilité de celle que nous a inculquée la religion. Quoi. Notre religion qui veut vraiment qu'on soit enfermé, le papa, la maman, les enfants, les cousins et cousines peut-être, mais le reste non. Quoi. Alors, moi, je suis resté un peu hippie depuis toujours, et j'ai.
Donc, vous êtes plus à l'aise dans la famille. Enfin, plus à l'aise. Vous vous reconnaissez plus dans la famille au sens polynésien du terme qu'au sens occidental.
Ah oui, c'est clair, c'est clair. Moi, je savais dès le départ, je l'ai écrit, je l'ai dit clairement, que jamais je ne serais un père dans le genre, dans le sens conventionnel, c'est-à-dire rentrant tous les soirs à 6 heures du soir, épuisé par une journée de travail, ayant pas beaucoup le temps de s'occuper de ses enfants, parce que pendant que la mère s'occupe de tout ça et tout, moi, je savais que je serais très différent, que je serais plutôt comme un oncle. L'oncle qu'on a tous rêvé d'avoir, c'est-à-dire qui revient du bout du monde avec à ses chaussures le sable des plages ou la poussière d'étoiles, et puis qu'on est content de voir arriver, puis on est content de le voir repartir aussi parce qu'il apporte un peu de chamboulement. Et j'ai été comme ça pour mes enfants, j'ai été comme ça et ça s'est bien passé. Je passe peu de temps dans l'année avec eux, mais ces moments-là sont du temps de qualité. C'est du temps de qualité. Ils sont très intenses.
Je l'appelle cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté.
Antoine, vous avez eu ce goût de la mer, je crois, à partir de la fin des années 60, début des années 70, l'envie de partir, de larguer les amarres. Lorsque vous avez effectivement quitté largué ces amarres, j'imagine que vous n'aviez pas d'attache, aucune attache affective. La question ne s'est pas posée.
Non, la question ne s'est pas posée. J'avais l'attache affective d'amis, de très chers amis, qui comprenaient très bien mon principe, mon idée, ma philosophie, et qui étaient ravis de me voir partir parce qu'ils savaient que je reviendrais, puis que notre amitié continuerait, quoi. Mais c'est vrai que j'avais plus de parents. Ce côté-là c'était pas un problème, quoi. Et lorsque c'est présenté différemment, j'ai eu des enfants, ça a été la même chose, c'est-à-dire que ça a été entendu dès le début que je ne serais pas un père comme les autres, que je voyagerais beaucoup, que je reviendrais de temps en temps, comme je l'ai décrit tout à l'heure.
Quand vous dites ça a été entendu, c'est-à-dire que vous avez posé les choses clairement sur la table en disant attention, moi je ne veux pas être mise en cage, je veux bien avoir des enfants, mais je ne veux pas être mis en cage.
Oui, c'est pas forcément mettre en cage, parce que je pense qu'il y a des parents qui se réalisent sans être en cage dans leur, dans le système traditionnel, quoi. Mais moi, j'avais un système pas traditionnel. Je voulais changer de pays très régulièrement, très librement. Je me voyais pas du tout être lié à des obligations scolaires, par exemple, les enfants doivent être à l'école à telle et telle date. Je voyais pas non plus devoir. Je suis un solitaire. J'ai envie de passer des semaines et des mois seul, donc je voulais pas la compagnie ni d'une compagne, ni d'enfants, ni des amis des enfants, ni des parents des amis des enfants, qui sont des fois ce qui vient de plus grave. Je voulais pas de ça en permanence. Donc j'ai établi les bases tout de suite. Ça a été clair.
Alors quel père êtes-vous?
Oh, moi je suis un père. Alternatif, épisodique, de temps en temps, mais je préfère passer 3, 4, 8 jours très chaleureux et très présents, à 100% à me dédier à des enfants, que d'être l'autre père de la société actuelle, quoi, qui malheureusement n'a pas beaucoup le temps, et puis, le contexte, on est tellement pris par le travail, par les obligations en tout genre, que c'est plus comme l'OTAN où est né ce genre de famille nucléaire dans les grandes prairies ou dans la nature. Tu as
cassé la moto Gaudi, maintenant t'as plus qu'à parier.
Moi, j'ai bien sûr subvenu tout et je continue à subvenir aux besoins de mes enfants, mais clairement avec la distance que j'ai. Et puis ça se passe bien, moi j'ai une grande complicité avec mes enfants et je suis content de les voir. J'en ai un qui étudie, qui est en troisième année d'études de conception de jeux vidéo dans le nord de la France. Les autres vivent à Tahiti avec leur maman et je les vois régulièrement et ça se passe très bien.
Comment vous vous projetez dans le rôle de grand-père?
Oh, moi, je ne serai jamais grand-père, moi, c'est clair. Mes enfants auront peut-être des enfants, mais moi, je ne serai jamais grand-père.
Merci beaucoup. Ben voilà, au moins que ce chemin est averti. Antoine ne sera jamais grand-père malgré la barbe qui blanchit et malgré les cheveux toujours longs. Ça doit être son côté 68-art. Pierre-Antoine Muraccioli, donc Antoine, né en 1944, qui parcourt le monde entier. Si vous voulez avoir des nouvelles, son site internet est très rigolo. Il y a des photos, alors un pléthore de photos. Et puis son carnet de bord, si vous voulez le suivre de par le monde, parce qu'il est toujours de par le monde. On a mis ça en lien, bien sûr, sur notre site à nous, sur la page de la Smala, via rsr.ch. Après les informations, nous allons parler des filles à la vanille et des gars au chocolat avec Sarah Diran et Mélanie Croubalian. Une heure pour comprendre l'identité fille-garçon. Beau challenge. À tout de suite, il est déjà 10h.
Radio Suisse Romande, les informations, David Racana.
Pas de super G masculin aujourd'hui en Suède. L'épreuve qui devait ouvrir les championnats du monde de ski alpin à Auray a été reportée à lundi en raison de vents violents en altitude. Les organisateurs ont pris la décision tôt ce matin après une nuit marquée par de fortes chutes de neige sur la piste Olympia. Le super G féminin sera disputé demain. Ivanovic Ingis, c'est l'affiche de la finale du tournoi de tennis de Tokyo. La numéro 1 mondiale, Maria Sharapova, a abandonné face à la Serbe Anna Ivanovic en raison d'un claquage. Alors que la Suissesse Martina Hingis battait la Russe Elena Dementieva 6-4, 6-3. Un policier italien de 38 ans est mort hier soir dans des violences entre supporters à l'issue du match de football de Serie A, Catane-Palerme en Sicile. La Fédération italienne de football a immédiatement suspendu les rencontres de Serie A et B prévues ce week-end, ainsi que les matchs amicaux des équipes nationales programmés la semaine prochaine. Une décision approuvée par le président du conseil italien Romano Prodi. 8 personnes ont été blessées dans des combats entre les partisans du Hamas et du Fatah cette nuit et ce matin à Gaza, malgré un accord de cessez le feu entre les chefs des deux mouvements. Le président palestinien Mahmoud Abbas, chef du Fatah, et le chef du Hamas en exil à Damas, Khaled Mekkal, doivent se rencontrer mardi à la Mecque pour tenter d'endiguer ces violences. 50 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un poids lourd transportant du gaz comprimé dans le sud des Philippines. L'accident a également fait une quarantaine de blessés. Le camion a explosé après avoir percuté un mur. La déflagration a détruit un car bondé de passagers qui passaient à proximité. Au moins 5 personnes ont péri dans des inondations à Jakarta et dans les environs. Ces pluies diluviennes en Indonésie ont également fait quelques 100 000 sans-abri selon le dernier bilan publié ce matin par les autorités. Les inondations affectent autant les bidonvilles que les quartiers chics. D'importantes coupures de courant et des ruptures de lignes téléphoniques ont été signalées. Les autorités vietnamiennes soupçonnent un pétrolier d'être à l'origine de la pollution qui a souillé 125 km de côte depuis mardi dans la province centrale du Cam Nam. Plusieurs centaines de personnes sont mobilisées pour les opérations de nettoyage. La pollution a notamment touché China Beach, une plage touristique prisée pour la blancheur de son sable, où les soldats américains venaient se prélasser pendant la guerre. La firme américaine de commerce en ligne Overstock a lancé une action en dommages et intérêts à hauteur de 4,5 milliards de francs contre une dizaine de leaders du courtage aux États-Unis, dont le Crédit Suisse et l'UBS. La compagnie les accuse d'avoir manipulé ces actions pour faire baisser leurs cours. La plainte a été déposée devant un tribunal de San Francisco. 2 tranches du gâteau de mariage de feu la reine Victoria vont être prochainement exposées au château de Windsor au Royaume-Uni. Ces vestiges vieux de 167 ans seront présentés dans le cadre d'une exposition sur les gâteaux royaux entre 1840 et 1947. Ces tranches royales seront exposées dans de petites boîtes en carton portant l'inscription Buckingham Palace 10 février 1840. C'est la date du mariage de Victoria et du prince Albert. La bise chasse le stratus pour laisser le soleil rayonner toute la journée, malgré quelques passages de nuages élevés. Le mercure affichera des maximales de l'ordre de 5 degrés en pleine, 3 degrés à 2000 mètres, même type de temps pour demain.
Les pronostics du PMU, Alain Meury.
Le prix du Jura va mobiliser les parieurs cet après-midi à Vincennes. Ce trot athlète de 1850 mètres réunit 18 concurrents de bon niveau qui n'en sont pas à leur premier événement. La course s'annonce donc ouverte, même si les plus riches ont de quoi imposer leur loi. Le 17, Marie Girl vient ainsi d'aligner une belle série de places d'honneur avec Yves Dreux et prétend logiquement à la victoire en compagnie de l'élève de Jean-Baptiste Bossuet, le 18, Laxter. Mais n'oublions évidemment pas le bazir du jour, le 12, Max de Guèze, même s'il a un tout petit peu déçu en dernier lieu, ni le 16, Magnificent Rodney, qui avait merveilleusement commencé le meeting d'hiver. À la limite du recul de 25 mètres, le 7 Lucky Fan ne devrait pas rater cette occasion de refaire parler de lui, alors que le 3 Maya Dostal est dans une forme resplendissante qui peut lui laisser espérer un succès. Enfin, le 13 Master Deschal, piloté par Eric Raffin, brille autant au sulky que sous la selle, et le 11 Lonely Smiling possède un métier à toute épreuve à ce niveau de compétition. Voici ma synthèse. 17-18, 12-16, 7-3, 13 et 11. Longues oreilles seraient surpris que le 9 Modern Jazz commette une nouvelle fausse note. Très bon week-end à tous.
Infotrafic, RSR.
En raison d'un accident, le trafic est toujours perturbé dans les deux sens sur l'axe Orbe-Lausanne entre les jonctions de Balègue et des Clés.
Selon les derniers chiffres à disposition, plus d'un couple marié sur deux est voué à l'échec. Une situation qui très souvent aboutit à une double paupérisation, sans compter le problème des enfants. N'existe-t-il pas une autre voie que la séparation pure et simple ? Parvient-on tout de même à être créatif ensemble lorsque les sentiments ont déserté le couple ? Nous attendons vos informations et témoignages sur virus.rsr.ch. Virus, l'enquête contagieuse, avec le journal 20 minutes, la Suisse romande au quotidien. Dimanche 11 mars, à qui les Vaudois vont-ils attribuer les 7 sièges du gouvernement ? Joutes électorales avec un représentant de chaque parti, dimanche 11 février, en direct et en public dans Forum, de 18h à 19h sur la première. Si vous souhaitez assister à cette émission, rendez-vous au Café des Bouchers, à Prilly, dimanche 11 février, de 18h à 19h.
La Smala, avec le réseau de pharmaciens Pharmacie Plus.
Écoutez,
ma vraie mère, ma mère génétique, je la connais très peu.
Je sais pas vraiment ce que c'est une enfance heureuse.
La Smala.
La Smala, si c'est faire de vous un adulte plein et heureux, oui, j'ai eu une enfance heureuse.
Disons que c'est des problèmes d'inconnus, quoi.
Est-ce la même chose d'être le papa d'une fille, être le papa d'un garçon, être la maman d'une fille, être la maman, enfin grand-maman, grand-papa, vous déclinez ça autant que vous voulez. Jusqu'à 11h, on va se poser la question de l'identité sexuelle. On vous donnera à entendre ceux qui réfléchissent donc à cette dite identité et à l'égalité donc dans notre société. Et ce, dès tout petit, est-ce qu'on est finalement les mêmes ? Oui, face à ces petits, pour le savoir, Mélanie Croubalian est entre autres allée voir des parents, parents d'une famille de jumeaux, un gars, une fille. Et l'égalité dans tout ça, l'identité dans tout ça, beaucoup de points d'interrogation, Sarah Diren. Et notre réflexion est partie en fait de la de publication d'un livre.
D'un collectif, filles-garçons, socialisation différenciée, point d'interrogation, paru aux presses universitaires de Grenoble dans la collection Vie sociale. Donc c'est un collectif dirigé par la psychologue genevoise Anne Daflon-Novel. Il est vraiment passionnant, il réunit une vingtaine d'articles autour de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des différences dans la manière d'éduquer, de socialiser, de se représenter les filles et les garçons dans notre monde occidental ?
A priori, j'avais envie de vous dire non, mais...
Non, pas du tout.
Bah justement.
Mais pas du tout, voilà. Tous les articles montrent donc le contraire. Une vingtaine de chercheurs dans leur spécialité donc tentent d'y répondre dans des domaines aussi divers que la famille, l'univers scolaire, la médecine, la psychanalyse, la publicité, les livres pour enfants ou encore les habits. On abordera quelques-uns de ces thèmes jusqu'à 11h. Toutes les études, ces analyses tentent donc à donner raison à Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Je vous propose une première piste en nous rendant dans une crèche, l'espace de vie enfantine des Allobroges à Genève, en compagnie d'Anne Daflon-Novel qui va faire passer un petit test à des enfants de 4 ans. Mmh. Alors ce jour-là, je vous assure, c'était un hasard, il y avait un éducateur, Sébastien, un homme donc, à l'espace de vie enfantine. Il y a 2 éducateurs sur 20 éducatrices. Alors, Anne Daflon-Novel, alors ici nous sommes dans un espace de vie enfantine. Qu'est-ce que nous allons voir ? Si les enfants savent pourquoi ils sont des garçons et pourquoi ils sont des filles ?
En fait, ce que je vous propose de faire, c'est de leur faire passer un test de constance de genre. C'est-à-dire de leur présenter... En fait, on a pris deux enfants en photo. Un garçon et une fille âgés d'environ 2 ans. Et ces enfants ont été pris en photo dans différentes situations. Ils ont été pris en photo tout nus. Ils ont été pris en photo avec des habits et accessoires de leur propre sexe. Et ils ont été pris en photo avec des habits et accessoires du sexe opposé. D'abord, évidemment, comme il s'agit de quelque chose qu'on va présenter à des jeunes enfants, on enrobe cela dans une histoire. On va leur raconter qu'on a des photos de deux enfants, un garçon et une fille, qui sont cousins, qui un jour sont amusés à s'échanger les vêtements, à se déguiser. On les a pris en photo, puis que maintenant on va leur montrer ces photos, puis qu'on va leur poser des questions. Avec ce matériel, on va pouvoir déterminer si l'enfant a oui ou non atteint le stade de constance de genre. C'est-à-dire que l'enfant, quand on lui présente 3 photos successives du même enfant, un petit garçon tout nu, un petit garçon habillé en fille, un petit garçon habillé en garçon, il faut que l'enfant, pour qu'il ait atteint le stade de constance de genre, puisse nous dire pour chaque photo qu'on est un garçon ou une fille en fonction de critères biologiques, en clair, en fonction de l'appareil génital. Et qu'on peut être un garçon habillé en fille, on reste néanmoins un garçon. Et vice versa, les enfants, effectivement, durant les premières années de leur vie, sont convaincus qu'on est garçon ou fille en fonction de ces critères extérieurs. Cheveux courts, cheveux longs, jupe, pantalon, jouer au Barbie, ou bien jouer aux petites voitures. C'est seulement avec le fait d'atteindre le stade de constance de genre qu'ils se rendent compte qu'effectivement, maintenant, c'est l'appareil génital qui va déterminer si on est une fille ou un garçon. Puis dès lors, peu importe, on peut faire ce qu'on veut en termes d'activité.
Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.
Comme à partir d'un moment, les enfants vont être excessivement rigides par rapport au respect des rôles sexués. Eh bien, pour les adultes qui les entourent, et notamment pour les parents de ces enfants-là, eh bien, on se rend compte que eux vont plutôt expliquer cette différence de comportement, c'est-à-dire que le garçon va se comporter, je dirais, comme un prototype de vrai petit mec, puis la fille comme un prototype de vraie petite nana. Eh bien, les parents vont expliquer cette différence par la biologie. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben oui, c'est normal, ma fille se comporte comme ça, mon fils se comporte comme ça, c'est biologique. En fait, non, c'est pas biologique. Au contraire, c'est quelque chose de socioculturel, c'est quelque chose de tout à fait normal dans le développement de l'enfant. C'est quelque chose de normal, ça veut pas pour autant dire que, par exemple, les petits garçons sont plus turbulents que les petites filles, en raison d'un facteur biologique. C'est vrai qu'à un moment, on va s'apercevoir qu'ils vont être plus turbulents, mais parce que, c'est ça aussi, c'est d'autres recherches scientifiques qui le soulignent, les garçons sont moins découragés que les petites filles lorsqu'ils sont plus turbulents, lorsqu'ils sont plus indisciplinés, etc. Alors que les petites filles, on va les remettre en place beaucoup plus rapidement.
Je vois que les enfants arrivent et on va vraiment le tester. Bonjour.
Vous avez fini la sieste ?
On va faire quoi ?
On va faire un jeu. Vous pouvez regarder la photo de Nicky. À votre avis, Nicky, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille ?
C'est un garçon.
Ok, mais vous savez maintenant ce que je vais faire. Donc on va laisser ici cette photo de Nicky. Et je vais vous montrer une autre photo de Nicky. Parce que vous vous souvenez avant, je vous ai expliqué qu'un jour, les enfants se sont échangés les habits. Alors je vous montre une autre photo de Nicky. Alors, sur cette photographie-là, est-ce que Nicky ressemble à une fille ou bien est-ce que Nicky ressemble à un garçon ?
Il ressemble à une fille.
Tu peux me dire comment tu sais qu'il ressemble à une fille ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ressemble à une fille ?
Poupée.
Est-ce que, pour de vrai, c'est un garçon ou c'est une fille ?
C'est une fille.
Mais non.
C'est une fille parce qu'il a un ballon de fille.
Et puis maintenant, si je te pose une question à propos de ta petite voisine, comment tu sais si c'est une fille ou bien si c'est un garçon ?
Mais je ne sais pas.
D'accord. Et puis Emily, comment on sait que Mustapha c'est un garçon ?
Parce qu'il a les cheveux courts.
Et alors pour toi, tu sais m'expliquer comment tu sais que toi tu es une fille ?
Parce que les cheveux longs.
Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de zoo.
Sébastien, nous sommes ici donc à l'espace de vie enfantine des Allobroges, à Genève. Est-ce qu'il existe des coins pour les filles et des coins pour les garçons ici?
Non, non. Chaque activité est mise mixte pour qu'ils désirent.
Et dis-moi, est-ce que toi tu joues à la poupée?
Pas souvent.
Et toi, Mustapha?
Moi, je joue au camion de pompier.
Vous avez le sentiment, Sébastien, que lorsque vous êtes ici, vous observez les collègues, ou lorsque vous-même, dans votre expérience, vous avez le sentiment qu'on a une attitude différente vis-à-vis des garçons que vis-à-vis des filles. C'est-à-dire que vous les voyez, vous, ces attitudes-là?
Non, moi, je pense que je les vois pas, mais qu'inconsciemment, forcément, on aura une attitude légèrement différente. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de l'âge et de la personnalité, puisque finalement, tous des individus à part entière, et avec leurs spécificités, il y a des filles, je dirais entre guillemets, très filles, et qui vont avoir des demandes différentes de petits durs, si j'ose dire, qui vont être des garçons très garçons, et puis qui vont moins demander d'affection, mais des fois, enfin d'affection, ouais, ou d'autres choses, mais j'ai pas l'impression qu'on peut globaliser entre l'attitude... les demandes des garçons et les demandes des filles, de même que notre attitude envers les filles et envers les garçons.
Mais on voit aussi dans vos recherches, Anne Daffin-Novel, que les pères aussi n'ont pas la même attitude vis-à-vis de leurs enfants, alors soit filles, soit garçons, hein, qu'ils sont, allez, utilisons le mot discriminatoire vis-à-vis du sexe de l'enfant.
Effectivement, les recherches qui ont été faites dans la famille sur la manière dont le père versus la mère s'occupe de leurs enfants, et notamment donc en fonction du sexe des enfants, bien ces recherches ont pu mettre en évidence que les pères n'ont pas la même attitude face à leurs fils que face à leurs filles, c'est-à-dire qu'ils vont davantage s'investir auprès de leurs fils qu'auprès de leurs filles, notamment lorsqu'il s'agit des premiers enfants qui sont nés dans la famille. C'est-à-dire que si vous avez une famille où vous avez d'abord un garçon, le père va davantage s'investir auprès de ce garçon que dans une famille où vous avez un père qui a d'abord une fille, et qu'ensuite, si dans cette famille où il y a eu d'abord un garçon et ensuite il y aura une petite sœur, eh bien effectivement, je dirais la fille, elle va garder l'avantage du fait d'avoir eu un grand frère et d'avoir vu son père en fait s'investir auprès du garçon, et ensuite il va continuer à s'investir auprès du deuxième enfant, même si cet enfant est une fille. Alors que dans les fratries où il y a que des filles, eh bien on constate effectivement que l'apport du père est moindre.
Quand papa regarde la télé, quand papa regarde la télé, il faut pas le déranger, il faut pas le déranger. Si l'arbitre n'a pas sifflé, si l'arbitre n'a pas sifflé, un pénalty bien mérité, le ralenti l'a confirmé. Oh, allez, mange, mange ta soupe toute seule comme une grande. Sois grande, tu as 8 ans.
Et ça se termine par un extrait de l'inénarrable Vincent Malone, Mange ta soupe. Alors je sais qu'il y a des papas qui ont dû bondir en disant mais comment, pas du tout, je me suis autant occupée de mes filles que des garçons, en fait, etc. En tout cas, ce sont les études qui le disent. Ça, on se retranche toujours derrière les études.
Tout ça est très scientifique. Non, mais c'est très insidieux, oui. comme
subtil.
Subtil. Hein. On va dire subtil plutôt qu'insidieux. Mais on retrouve ces attitudes différenciées non seulement au sein de la famille, mais dans beaucoup d'autres domaines. On entendra tout à l'heure Élodie Berlecher, qui elle a analysé le monde des jouets. Mais d'abord, entrons dans celui de la publicité avec le sociologue Fabio Lorenzi-Cioldi. C'est le seul homme qui a contribué au livre Filles, garçons, socialisation différenciée. Fabio Lorenzi-Cioldi est professeur de psychologie sociale à l'université de Genève. Il a beaucoup travaillé sur les rapports dominés-dominants, sur l'androgynie et bien sûr sur la publicité. Une publicité pour les enfants qui a ses propres règles. Alors par exemple en France, je ne sais pas pour la Suisse, mais par exemple en France, le bureau de vérification de la publicité édicte des règles, des recommandations. Par exemple, pour les publicités de produits sucrés, alors, il y en a beaucoup, hein, mais il ne faut pas inciter les enfants au grignotage, il ne faut pas dévaloriser l'autorité parentale à travers les publicités. Mmh. Il y en a de nombreuses, hein, de recommandations éditées par le bureau de vérification de la publicité, mais aucune de ces recommandations ne fait référence au sexe de l'enfant. Et pourtant, réaction donc avec Fabio Lorenzi-Cioldi.
Et pourtant, effectivement, il n'y a aucune, à ma connaissance, il n'y a aucune recommandation qui table sur la différence garçon-fille. Comme si, au fond, ce n'était pas si mal que ça d'élever des petites filles et d'élever des petits garçons en les préparant à leur futur rôle d'homme ou de femme, clairement distinct.
Et pourtant, les publicités qui s'adressent aux enfants sont, alors j'utilise un mot volontairement fort, sont sexistes.
Tout à fait. Dans les années 70, un sociologue, Goffman, avait fait une enquête sur les publicités américaines de l'époque et avait repéré plusieurs critères qui différenciaient l'homme et la femme tels qu'ils étaient représentés dans ces publicités. Et il y a eu plusieurs répliques, plusieurs chercheurs ont essayé d'utiliser ces différentes catégories au fil des ans, avec l'hypothèse que, évidemment, on trouverait de moins en moins de différences parce qu'on allait vers une société de plus en plus unisexe ou androgyne, ou on verra comment l'appeler. Et pratiquement à chaque instance de cette enquête, la dernière date d'il y a 2-3 ans, ils ont été fort déçus. C'est-à-dire que ces différentes catégories se retrouvent immanquablement dans toutes les publicités qui sont proposées d'une manière générale dans le monde occidental.
T'as vu mon journal intime? Il est électronique.
Confie-lui tes papiers secrets.
Il s'ouvre au son de ma voix avec mon mot de passe.
Il n'y a que toi qui peux l'ouvrir.
Dans l'espace, tu peux réparer le satellite. Et s'il y a un problème, éjecte-toi. Une fois ta mission terminée, rassemble ton camion et repars vers un nouvel objectif. Amuse-toi à le transformer.
Écoutez, est-ce que je peux vous lire deux slogans publicitaires trouvés récemment dans la publicité? Magazine féminin, je ne les nommerai pas. Sur la couverture des magazines, deux exemples. Une photo d'une femme avenante avec un message « Enfin, un corps tel que tu le désires » accolé à la phrase « pour que finalement ton mari t'écoute. » Un autre exemple. 4 kilos de moins ce mois-ci, associé à 25 manières de redonner à ton mariage l'intensité des premiers jours. C'est tout à fait récent. Aujourd'hui, il y a ce nouveau climat. Il y a une grande différence avec les années 70, notamment si on parle du contexte suisse ou même européen. C'est que effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui non seulement travaillent à l'extérieur du ménage, ce qui a toujours existé au fond, hein, mais qui font des carrières. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce nouveau discours sur la spécificité féminine est probablement une nouvelle forme de défense, peut-être la dernière manière de se défendre contre cette ascension féminine dans les carrières. C'est-à-dire, on veut bien accepter, parce qu'on ne peut pas faire autrement, que plus de femmes accèdent à des postes importants, mais néanmoins, confions-leur des tâches et des rôles relativement spécifiques qui soient consonants avec ces caractéristiques qu'elles sont réputées avoir. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui dénoncent une forme de sexisme qui consiste à mettre la femme sur un piédestal et à dire c'est l'autre moitié de l'homme, c'est ce sans quoi l'homme ne pourrait pas s'épanouir. Ce n'est plus dire la femme est inférieure, la femme a des manques, etc. Mais c'est néanmoins une manière de la mettre à distance, de la mettre dans un univers, dans une sorte de bulle qui lui est propre, qui lui est spécifique, depuis laquelle elle ne représente plus une menace pour, par exemple, la carrière de l'homme en entreprise, etc.
C'est ainsi que va la vie et que le monde s'épanouit.
L'homme qui a collaboré à ce livre, à travers son regard, nous avons un peu compris le sexisme dans la publicité. Si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie à ce livre préfacé par Micheline
Calmi-Ray. Et c'est vrai que Fabio Lorenzicciol dit évoquer évidemment la politique. Très peu de femmes sont représentées au niveau de la politique, au niveau de la sphère universitaire. Enfin, à découvrir donc son enquête dans Filles, garçons, socialisation différenciée.
Mais Micheline Calmi-Ray va remédier à tout ça, puisque, vous savez, le 1er août, tout va changer, puisque ces dames seront réunies au Grutli. Voilà, on va écouter une dame, enfin,
Est-ce qu'elle est vraiment une dame? Elle va le chanter. C'est Clémentine Sellary avec ses fils.
Mais c'est pas une dame.
Mais oui, mais vous allez entendre la chanson. Avec ses fils, elle va chanter. Puis juste après, nous allons nous intéresser aux jouets filles-garçons.
S'il vous plaît, chanson pour les dames. 3, 4. Les dames distinguées ont du vocabulaire, ont des propriétés et sont bonnes en affaires. Moi, je suis à découvert, je sais pas gérer, je termine pas mes phrases et j'ai trop d'idées. Les dames bonnes à marier vont dans les soirées en tailleur griffé, chaussures bien cirées. Moi, je suis pas douée pour les bonnes manières, je sais pas m'habiller et j'ai mieux à faire. Je suis pas une dame. Un institut de beauté, moi je fais ma couleur toute seule à la maison. Je vais pas chez coiffeur et je me ronge les ongles. J'ai pas l'âme d'une dame, je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame, je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame, je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame, je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. Les dames bien éduquées se font assister, organisent des dîners, déjà tout préparé. Moi j'aime faire à manger, mais je sais pas recevoir. Chez moi c'est pas rangé, on peut pas s'asseoir. Les dames cultivées vont voir des expos, ils veulent que leurs enfants fassent un tube ou Sciences Po. Moi je demande à mes petits d'apprendre leurs leçons, mais j'ai du mal à croire à cette éducation. Je suis pas une dame. Je suis pas une dame. Les dames très coquettes, actrices ou mannequins, ne font pas trop la fête, elles grignotent des grains. Moi j'aime aller danser jusqu'à 8h du mat. Après je vais manger des bonnes pâtes. J'ai pas l'âme d'une dame. Je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame. Je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame. Je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame, je suis pas sage, j'ai pas l'âme d'une dame.
And now, for the first time in France, ladies and gentlemen, can you pay dance?
What?
The can you pay dance?
L'album s'appelle Family Groove. On y retrouve Clémentine Sellary en chef de tribu, de, je sais plus, c'est 3 ou 4 garçons d'ailleurs. En tout cas, ils sont là bien présents autour d'elle. Elle n'a pas eu la chance d'être la maman d'une fille. Parce que c'est aussi une chance d'être maman d'une fille.
Ah oui, c'est une chance, puis on peut justement comparer.
C'est un autre monde.
C'est un autre monde, paraît-il, même si on a l'impression aujourd'hui d'éduquer nos enfants de la même manière, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles. On l'a vu depuis 10 heures, hein, il y a des petites subtilités. Et subtilités qu'on retrouve dans le livre d'Anne Daflan Novel, Filles, garçons, socialisation différenciée, un article notamment sur le jouet.
Est-ce qu'on offre des poupées à un garçon? Qu'on offre des camions de pompiers à une fille? C'est un peu la question.
En gros, et puis est-ce qu'on joue de la même manière si l'on est fille ou garçon? J'ai demandé à Élodie Berlocher qui signe cet article, qui a analysé justement les notices, les jouets pour les enfants. Je lui ai demandé si on jouait de la même manière si l'on était fille ou garçon.
Je pense pas qu'on joue de la même manière quand on est un petit garçon ou une petite fille, mais c'est surtout qu'on nous laisse pas jouer de la même manière quand on est un garçon ou une fille. C'est-à-dire que les jouets pour les garçons et les jouets pour les filles sont très spécifiquement différents les uns des autres. Ils amènent à d'autres choses, ils amènent à apprendre d'autres choses. C'est-à-dire que les garçons et les filles ont déjà toute une socialisation de leurs parents et de leur entourage qui fait que on leur apprend à être des petits garçons et des petites filles. Par exemple, les jouets de garçons sont des jouets qui vont amener plus au leadership, qui vont amener plus à la créativité, etc. Alors que les jeux de filles sont des jeux qui vont amener plus au langage, à la communication, à l'entraide. Mais il faut aussi dire que les filles ont une chance par rapport aux garçons quand elles sont enfants. C'est-à-dire que les filles ont plus le droit de jouer avec les jeux de garçons. C'est-à-dire que une fille qui joue avec un camion, ça dérange pas ou ça dérange moins. Alors qu'un garçon qui joue avec une petite poupée, ça devient nettement plus difficile à accepter. On l'accepte un petit peu aujourd'hui que le garçon joue avec, mais c'est encore très difficile de l'offrir. Moi, j'ai un neveu où c'est vrai que lorsqu'on parle à son père de l'idée d'acheter une poupée, il aime pas tellement l'idée. Or, ben, mon neveu, il voit son papa qui s'occupe de lui, qui le change, qui le promène, qui fait des choses avec lui, et peut-être qu'il a juste envie d'imiter son papa. Alors que dans la tête de son papa, s'il joue avec une poupée, il est en train d'imiter sa maman. Et ça fait partie des représentations que les adultes donnent aux enfants et forcent les enfants à avoir. Un garçon ne joue pas à la poupée. Alors que, en l'occurrence, la société aujourd'hui est en train d'essayer quand même de donner autant de chance aux hommes qu'aux femmes, ce qui, lorsqu'on lit le bouquin, on se rend compte que ça n'est pas le cas dès l'enfance, en fait.
Évidemment, à première vue, ça ne me plaît pas.
En 1966, la Suisse romande découvre des poupons, des poupées, avec un sexe de garçon.
Pour moi, ça n'offre aucun intérêt.
Il est naturel, je trouve.
Vous le trouvez choquant ?
Ben non, pas du tout.
Il m'a choqué quand je l'ai vu.
Vous l'achèteriez pour votre petite fille, par exemple ?
Peut-être pas tout de suite, non, ça dépend l'âge. Non, je crois pas.
Oh, mais c'est sensationnel. Vraiment, on dira que c'est un vrai bébé.
Mais enfin, je trouve que tant qu'à faire des poupées, autant faire des poupées, des petits garçons qui soient des petits garçons, des petites filles qui soient des petites filles.
Je pense que les enfants prennent ça extrêmement naturellement, à condition toutefois que les parents, eux, le prennent aussi naturellement. Parce que dans toutes ces choses-là, les enfants sont très souvent le reflet des parents et de l'opinion des parents. Alors si les parents se choquent ou si les parents disent aux enfants des choses maladroites touchant ces bébés munis d'un sexe, ces poupées munies d'un sexe, eh bien, cela fera du mal aux enfants. Les enfants, au fond, s'ils ont une poupée qui est une poupée tout à fait ordinaire ou même une poupée de pâte, en feront un garçon ou une fille, s'ils ont envie d'avoir un garçon ou d'une fille, et s'ils sont, eux, au courant des sexes, eh bien, il se peut très bien que dans leur imagination, leur poupée soit munie d'un sexe.
Prenons les tout petits enfants à partir de 20 mois. Ils ont déjà des préférences.
Ils ont déjà des préférences, mais ils ont surtout des préférences aussi parce qu'ils voient qu'à chaque fois qu'ils choisissent le bon jouet, ils ont des feedbacks positifs des adultes. Donc ils apprennent, tout simplement. Il y a des études qui montrent que si on laisse un enfant tout seul dans une pièce qui pense qu'il est tout seul, il va souvent se diriger vers un objet qui est contre-stéréotypique, vers un jouet qui n'est pas forcément celui qu'il aurait le droit d'utiliser. En plus, il faut quand même dire que le fait d'être un garçon est plus valorisé socialement. Donc le fait de prendre des caractéristiques de garçon est plus positif, même si elle perd le fait d'être une fille, elle devient un garçon manqué. C'est-à-dire que elle manque d'être un garçon, elle n'est pas vraiment un garçon. Elle n'y arrive pas complètement. Alors que le garçon va tout de suite avoir une connotation beaucoup plus sexualisée et par rapport à son identité sexuelle. Alors que la fille, c'est par rapport à son identité sexuée qu'il y a une différence. C'est-à-dire, la fille, on va la prendre pour un garçon, alors que le garçon, on va le traiter d'homosexuel, quelque part.
Pourquoi dit-on garçon manqué, mais jamais fille manquée ?
Ben parce que on ne peut pas être une fille manquée. Une fille est manquée à la base, dans l'idée de la société. C'est-à-dire que c'est moins valorisé socialement, quelque part. Alors, c'est une extrapolation que je fais personnellement. C'est-à-dire que la fille, elle peut essayer tant qu'elle veut. Elle ne sera qu'un garçon manqué. Par exemple, il y a des études qui montrent que lorsqu'un petit bébé est filmé en train de pleurer, qu'il est habillé en rose ou qu'il est habillé en bleu, on ne lui attribue pas les mêmes émotions. C'est-à-dire le petit bébé en bleu, qui est le même petit bébé que quand il est en rose, en bleu quand il pleure, c'est qu'il est en colère, et en rose quand il pleure, c'est que quelque chose ne va pas. Donc quand on imagine ça, forcément qu'au travers du jouet, on va transmettre tout ça, et on va autoriser certaines choses et ne pas autoriser d'autres choses.
De tout temps, Élodie Berlechard, ça s'est passé comme ça, parce qu'on sait que le jeu, le jouet est central, hein, est essentiel, hein, pour l'enfant. Mais il y a quelques siècles, ça se passait comme ça.
Alors, ça se passait pas comme ça. Bon, faut déjà dire qu'il y a quelques siècles, il n'y avait pas autant de jouets qu'aujourd'hui. Bien entendu, il y a eu toute l'industrialisation a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de jouets qu'auparavant. Mais par exemple, tous les rois de France avaient une poupée. Tous les rois de France avaient le droit de jouer avec une poupée et c'était normal. Et lorsqu'on a des représentations des rois de France enfants, ils ont souvent une poupée dans les bras.
Mais ils sont habillés avec une robe.
Ils sont habillés avec une robe parce que c'est beaucoup plus pratique. Un enfant habillé en robe, on peut le changer plus facilement, etc. Aujourd'hui, ça ne se ferait plus. Maintenant, par rapport aux jouets aujourd'hui et à l'époque, c'est vrai que la ségrégation aujourd'hui se fait d'autant plus vite. C'est-à-dire que c'est comme si, parce qu'aujourd'hui on essaye de faire croire qu'on élève nos enfants de la même manière, tout ce qui les entoure doit montrer aux enfants qu'ils ne sont pas identiques, qu'ils doivent apprendre des choses différentes. Et c'est très difficile parce qu'à l'époque, les enfants étaient élevés différemment et on expliquait bien que les garçons étaient élevés comme des garçons et les filles étaient élevées comme des filles. Mais tous avaient le droit de jouer avec les mêmes jouets. Alors qu'aujourd'hui, on dit les garçons et les filles sont égaux, mais chacun ses jouets et chacun chez soi.
Vous avez également analysé, Élodie Berlechère, les notices de certains jeux pour enfants. Je rigole parce que je trouve assez intéressant.
Oui, alors, c'est des sacs de couchage que les enfants peuvent emmener. Et c'est en fait, c'est comme un sac de couchage, mais c'est carrément un lit. Et à l'intérieur de ce sac, on peut y mettre ses différentes affaires. Bon, il y en a un qui est en rose avec un dessin de Barbie dessus. Il y en a un qui est avec Spider-Man dessus. Donc, on sait tout de suite lequel est pour le garçon, lequel est pour la fille. Mais en plus, on a l'explicatif qui dit, pour la fille, ta chambre à toi, partout où tu vas, voici un sac de couchage gonflable, aux couleurs de Barbie, pour épater tes amis quand tu vas dormir chez eux. Amène aussi ta petite étagère de rangement avec ton lit d'appoint. Donc elle peut ranger, elle peut épater ses amis parce que c'est tout ce qui l'intéresse, puisqu'elle a un sac de couchage aux couleurs de Barbie. Pour le petit garçon, après une dure journée aventurière, ce sac de couchage sera idéal pour te reposer de toutes les aventures et rêver à de nouvelles histoires encore plus folles. C'est le même sac de couchage. Et pourtant, il y a une véritable différence dans l'explicatif qui est fait. Donc on a tout un cursus qui nous a appris à ne pas être égalitaire. Et c'est très difficile à changer, ça met du temps. Le plus important aujourd'hui, je pense, est que les parents s'en rendent compte. Parce que pour l'instant, on est en train d'évoluer dans une société qui dit « nous sommes égalitaire, nous sommes de plus en plus égalitaires. » Et ça n'est pas le cas. Parce que tant que nous ne nous rendrons pas compte que nous n'élevons pas nos enfants de la même manière, si c'est un garçon ou si c'est une fille, on n'arrivera pas à changer l'éducation qu'on leur donne.
Qu'est-ce qu'il y a, Ludovic ?
Je me marierai pour de vrai avec Jérôme.
Je t'ai déjà dit qu'un garçon, ça se marie pas avec un autre garçon. Enfin, parfois, mais...
Mais je serai une fille.
Écoute, je veux plus entendre ce genre d'ineptie. Tu es un garçon, tu resteras un garçon toute ta vie. Quelle têtue, hein !
Extrait d'un film « Ma vie en rose » avec Michel Larocque qui est aux prises avec un petit garçon qui veut devenir une fille. Et ça, c'est un joli film, un très joli film qu'on vous conseille à voir. On se pose toujours la question des gens, on n'a pas fini. Et c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre, ça est fort interpellant.
C'est interpellant, mais faites le test si vous avez des enfants. Regardez les notices, ce qui concerne les enfants, donc... Quand c'est marqué enfant, c'est plutôt les garçons.
Ouais. Et quand c'est marqué fille, c'est fille.
Ah non, mais les notices, allez-y, allez dans les magasins, regardez les notices. Vous allez rire, sûrement.
Moi, il y a un autre truc, il y a un autre test enfin, qui prouve qu'on n'a pas beaucoup changé. C'est quand vous avez un bébé, essayez d'habiller une petite fille en bleu. On vous dira à 100%, j'ai testé et approuvé, mais quel joli petit garçon. Et à l'inverse, j'imagine que si vous habillez un petit garçon en rose, on va vous dire la jolie petite fille. Les stéréotypes ont la vie dure. Et c'est vrai que dans cette lancée, on se posait la question de l'éducation, bien évidemment, quand elle nous interpelle, nous parents. Et en matière d'éducation, c'est vous, Mélanie Croubalian, qui êtes allée voir des parents. Alors on se disait, on va rencontrer des parents qui ont eu des filles, des garçons, et puis voir la différence. Puis on se disait, ouais, peut-être même des moments décalés de vie, donc il y a des conceptions, on n'est pas forcément mûr de la même manière, et on n'élève pas forcément ses enfants de la même façon à des moments différents de vie. Donc, il nous fallait des parents, deux jumeaux, garçons-filles, nés en même temps. Comment tout ça grandit ? C'est la question qu'on se pose.
Voilà, j'ai rencontré une famille où se trouvent des jumeaux dizygotes. C'est ce qu'on appelle généralement, faussement d'ailleurs, des faux jumeaux. Mmh. Ils s'appellent Maxime et Clémence. Ils ont 6 ans. Ils habitent le Landron, dans le canton de Neuchâtel. Et ils ont un petit frère aussi, qui s'appelle Jules, et qui a 2 ans et demi. Alors, ils ont été élevés exactement en même temps.
En même temps, de la même manière.
De la même manière.
Enfin, on imagine de la même manière.
Bon, après tout ce qu'on a entendu, on peut aussi en douter. Mais la différence est vraiment là. Ça, c'est vraiment très clair.
Vous avez face à vous un petit mec et puis une petite nana.
C'est évident, donc, même en quelques minutes.
Et quel modèle d'éducation, finalement, ils ont adopté?
Alors, on peut pas tellement dire que ça vient des parents, cette différence, puisque j'ai été face à des parents très modernes, entre guillemets, tous les deux travaillent, même si la maman travaille à temps partiel. Le papa participe aussi aux tâches ménagères. Et les parents eux-mêmes, d'ailleurs, ont grandi avec des frères et des sœurs, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, sans que leurs parents distinguent vraiment entre garçons et filles. Mmh. Par exemple, le père m'a dit que chez lui, ni sa sœur ni lui ne débarrassaient la table quand ils étaient enfants, puisqu'ils étaient tous les deux très feignants.
Donc je vous pose la question piège, c'est d'où vient la différence?
Alors ça, c'est une grande question qui reste peut-être ouverte. Nous avons tenté de définir avec les parents et leurs jumeaux. Nous étions tous assis autour de la table de la cuisine et j'ai commencé par demander à la maman ce qu'elle a ressenti au moment où ils sont nés, puisqu'elle a appris seulement à la naissance qu'elle avait un garçon et une fille. Elle ne le savait pas pendant sa grossesse.
Là, j'étais ravie d'avoir d'un coup les deux. Le choix du roi, comme on dit, non, j'étais très contente. Maxime est né en premier, j'étais très contente que ce soit un garçon. Ensuite est venue Clémence. Puis c'était une fille, c'était parfait.
Est-ce que là, vous avez déjà, à ce moment-là, ressenti une différence entre un garçon, Maxime, et une fille, Clémence?
J'ai ressenti une différence, mais parce que Clémence était très très petite quand elle est née. Elle faisait 1,8 kg. Et puis, son frère était un petit peu plus grand, il avait l'air un petit peu plus costaud. Peut-être qu'à ce niveau-là, on influence déjà un petit peu, je pense, qu'on influence inconsciemment. Par contre, j'avais pas de code couleur, donc Maxime a eu du rose, Clémence a eu du bleu, du rose. Donc là, j'influençais pas, j'ai l'impression.
C'est quoi ta couleur préférée?
Le bleu.
Pour toi, c'est une couleur de garçon, le bleu? Et le rose, c'est une couleur de quoi?
De fille.
Toi, t'aimes le rose, Maxime?
Non.
Tu pourrais mettre un t-shirt rose?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'elle n'aime pas le rose. Jerry.
C'est quoi? C'est ton pull préféré?
Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des brillants.
Comment tu te sens quand tu portes un pull avec des brillants?
Bien.
Tu te sens jolie?
Oui.
Et toi, Maxime, t'as un habit préféré?
Oui, le pull de Batman.
Maxime a un garage, un circuit. Clémence ne m'a jamais réclamé de circuit.
Moi, j'ai tout de suite ressenti, vu une différence, constaté que Maxime, il jouait avec le train, les Lego, les camions, les voitures, et Clémence plus avec des poupées, enfin, ouais.
Dites-moi un peu, vous qui êtes jumeaux, vous avez grandi ensemble, vous vous souvenez un petit peu quand vous étiez plus petit, que vous jouiez ensemble? Est-ce que vous partagiez les mêmes jouets?
Oui.
Tu jouais plutôt avec quel jouet?
Avec les camions.
Et toi, Clémence, tu jouais avec des camions?
Non, non. Parce que j'aime pas les voitures.
Mais pourquoi t'aimes pas les voitures?
Parce que c'est pour les garçons.
Je vois là dans le salon, juste derrière toi, une poussette rose. Elle est à qui?
À moi.
Et qu'est-ce que tu mets dedans?
Des poupées.
Il joue avec Maxime des fois?
Non.
Pourquoi il joue pas?
Parce que c'est un jouet de fille.
Elle aime les Barbie, Clémence.
Toi, tu les aimes, les Barbie?
Non.
Dans ma famille, il y a ma sœur qui n'a qu'une fille. On peut voir qu'elle n'a que des jeux de filles. Ou presque. Elle reçoit de temps en temps une voiture, mais ça ne nous viendrait pas à l'idée de lui acheter un jeu typiquement un garage, par exemple. Alors peut-être qu'elle y jouerait beaucoup.
Tandis qu'ici, vous avez l'impression que le fait d'élever une fille en même temps qu'un garçon, finalement, ça fait qu'elle est moins cantonnée dans le rôle de fille.
Elle a le choix, mais elle préfère quand même souvent faire des choses un peu plus calmes, être avec moi, faire la cuisine, par exemple. Mais est-ce que c'est parce que c'est une fille? Elle aime faire la sauce à salade, elle la fait tous les jours, pratiquement, c'est elle qui l'a fait. Mais est-ce que c'est passé une fille?
Plus tard, quand vous serez grand, toi Maxime, tu t'imagines comment? Tu t'imagines faire d'abord quel métier?
Police.
Et toi Clémence?
Faire du cheval.
Oh, mais alors pourquoi on dit la princesse au petit pois?
Je sais pas, c'est parce que...
Elle était toute menue. C'est plus féminin, c'est plus...
C'est plus princesse.
Voilà, si tu veux.
On développe pas vraiment aussi pour pas trop... Enfin, moi, souvent, pour pas trop influencer. Si elle me dit, j'aimerais être une princesse, j'ai pas trop envie de rentrer dans son jeu. Ah, tu veux être une princesse, super. Ceci dit, c'est pas rare que Maxime ait répondu, je veux être chasseur ou je veux être...
Non.
Tu veux plus être chasseur?
Non.
C'est quoi un garçon pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents de toi?
Maxime, il a les yeux bruns et moi, les yeux bleus.
Ouais, mais ça veut pas dire que c'est un garçon. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent de toi?
Parce que Maxime, il a les cheveux courts et puis pas moi.
Et quoi d'autre?
Parce qu'il a des pulls de garçon et pas moi.
C'est quoi un pull de garçon?
Un pull avec des robots. Parce que Maxime, il aime mieux les robots que les poupées.
Et la définition du mot « fille » ?
C'est parce que moi, j'aime pas les robots et puis j'aime mieux les poupées.
C'est ça, une fille, pour toi?
Oui. Oui, oui.
Ou avant la bagarre, je te préviens. Avant la bagarre, réfléchis bien. Car il est bien plus grand que toi. Reste assis, non, n'y va pas.
Qui est le chef entre Maxime et Clémence?
Physiquement, c'est indéniable. Mais après, il y a l'aspect, je dirais, plus malin, plus, parfois un petit peu plus mesquin des filles. Je veux dire, Maxime, s'il lui donne un coup, c'est sûr, c'est pile poil le moment où on regarde. Tandis que j'ai le sentiment qu'une fille, elle attendra qu'on ait le dos tourné pour mettre un petit coup par derrière.
Les filles ont l'air plus compliquées quand même.
Ben, moi, j'ai l'impression que... Le caractère est lié au sexe, hein, et que leur comportement est lié à tout ça, effectivement. Je dirais qu'on n'a pas fait de distinction, et puis qu'il y a un élément, moi je pense qu'il y a un élément génétique. Voilà, il y en a un, quand il voit un bâton traîner, il le prend, il tape dans tous les sens, et puis Clémence, elle le touchera pas. C'est pas quelque chose qu'on leur a transmis, c'est quelque chose qu'ils avaient, je pense.
Vous avez l'impression d'offrir un modèle très clair, très différencié entre vous et la maman? Un papa très papa et une maman très maman?
Je dirais pas avec les deux premiers, ou en tout cas pendant les premiers mois. Moi, j'ai eu l'impression d'être plus une deuxième maman qu'un papa. Il fallait beaucoup partager, parce que sinon c'est une question de survie, hein, c'est ça.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on est maman? Quelles activités collent plus à être maman?
Ouais, ça c'est la question qui tue. Peut-être on était tous les deux un peu papa, un peu maman, en fait. Ce serait peut-être plus juste, ouais.
Vous avez des jumeaux, un garçon et une fille. Et puis, il y a le petit dernier, Jules, 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous remarquez dans le comportement de Clémence et Maxime, les grands, sur Jules? Est-ce qu'ils ont un comportement différent?
Oui, ils ont un comportement complètement différent. Clémence est très protectrice par rapport à son frère. Elle est comme une petite maman. Elle lui passe tout, elle lui propose plein de choses.
C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de tension entre les deux frères qu'effectivement avec Clémence qui est très protectrice. Ouais, vraiment.
Ça vient d'où ça?
Ça vient du double chromosome X, à mon avis. Voilà.
Jules, c'est à Clémence et à toi. D'accord? Non, je ne comprends pas les choses.
Deux ans et demi, le petit garçon?
Le petit Jules, dernier.
Déjà de jolies cordes vocales. Merci à cette famille de nous avoir ouvert ses portes et éclairé sur la différence fille-garçon, bien qu'on sente que même dans une famille de jumeaux élevés de la même manière, voilà, il y a des choses, d'après en tout cas ce que nous racontent les parents, qui sont assez troublant. On va écouter les Beatles et puis juste après le dernier volet avec un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Les garçons expliqués aux filles et les filles un peu expliquées aux garçons ». Enfin, tout ça est un peu, ce sera beaucoup juste après les Beatles.
Anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl. Of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl.
On a commencé cette heure sur la différenciation, sur les sexes, filles, garçons, dans une crèche. Sarah Dirène, nous allons poursuivre sous le préau d'une école avec des ados.
En quelque sorte.
Ouais, différence des sexes, mais là elle est prononcée. Hein.
Oui, mais surtout avec un livre, les garçons un peu expliqués aux filles, les filles un peu expliquées aux garçons, c'est paru aux éditions Albin Michel, et signé Bernadette Costa-Prade, qui est journaliste et qui a écrit quelques livres destinés justement aux adolescents. Alors dans ce livre, Bernadette Costa-Prade donne un grand coup à tous les clichés, tous les stéréotypes que nous pouvons, nous, avoir face à l'autre sexe. Alors je dis bien, hein, ça s'adresse aux adolescents avec un langage fleuri pour les ados. Mais voilà, pourquoi les garçons sont si accros aux jeux vidéo? Pourquoi les filles sont plus bavardes que les garçons? Pourquoi c'est toujours aux filles?
On est dans les stéréotypes, là. Hein.
Complètement, mais elle donne justement un grand coup. Elle explique ces stéréotypes. Elle va derrière les « ça va de soi ». Elle en donne aussi parfois un regard historique. Il y a également quelques commentaires soit de sociologues, soit de psychiatres dans les différents chapitres qu'elle aborde. Alors je lui ai demandé, pourquoi les filles étaient-elles tout le temps hypocrites? Non. Alors je lui ai demandé, pourquoi les filles étaient plus hypocrites que les garçons?
Parce que dès le berceau, leur mère parle plus avec leur petite fille. Et comme elles sont plus sollicitées, elles répondent. Et comme quand elles répondent, la mère est contente, elle leur reparle. Et donc il y a une espèce de cercle vertueux qui s'installe comme ça. Et donc effectivement, on se rend compte que c'est très étonnant. Hein. À l'âge de 2 ans, elles ont un vocabulaire beaucoup plus développé. Et c'est ce goût pour les mots, d'ailleurs, on va le retrouver pratiquement aussi au niveau de la scolarité. Hein. Ensuite, elles seront aussi bien meilleures en petites histoires à raconter.
On retrouve ce goût du langage par rapport aux couleurs. Et ce qui est intéressant, et on le voit dans votre livre, Bernadette Costa-Prade, les filles, pour définir une couleur, utiliseront un vocabulaire beaucoup plus large.
Oui, absolument, parce que pour elles, c'est important. En fait, les nuances sont importantes. Toutes les études sur les analyses de vocabulaire entre les filles et les garçons montrent bien que les filles cherchent le mot précis. Elles vont faire appel à toute la palette de couleurs pour décrire un bleu, le bleu de la jupe formidable qu'elles ont vue dans la vitrine. Un garçon, on va dire, c'est bleu, quoi. Voilà.
Il y aurait peut-être une explication biologique.
Il y aurait. Alors, si vous voulez, le biologique, en ce moment, il a un petit peu le vent en poupe. Hein. C'est-à-dire qu'on aimerait que dans le cerveau, il y ait une base des maths, une orientation plus particulière de telle zone du cerveau qui expliquerait que les garçons sont comme ci, les garçons sont, et les filles sont comme ça. Or, en fait, on se rencontre, il y a Catherine Vidal, une neurobiologiste, qui a fait un excellent travail sur cette question-là, et qui remarque qu'en fait, je dirais qu'au départ, garçons et filles ont quasiment, en dehors des hormones, hein, où là, effectivement, il y a une vraie différence, au niveau du cerveau, si vous voulez, il y a une sorte d'égalité quand on arrive au monde. Hein, et et puis qu'ensuite, en fonction des expériences que l'on aura eues, on va développer plus ou moins des aires du cerveau. Donc en fait, on l'a vu pour le langage, hein, c'est évident que sur le langage, les aires du cerveau des filles sont plus développées, mais parce qu'effectivement, depuis toute petite, elles font appel beaucoup plus souvent à cette aire du cerveau que les garçons, qui eux sont beaucoup plus sollicités sur le plan moteur par leur père. Par exemple, dans les squares, on laisse les petits garçons aller beaucoup plus loin que les petites filles. Ils vont avoir le droit d'aller jusqu'au portillon, alors que les petites filles, on va leur dire « reste là ». Donc si vous voulez, ils ont une habitude aussi comme ça de se déplacer dans l'espace qui va se retrouver au niveau de leur cerveau.
Ce que vous êtes en train de dire, Bernadette Costa-Prade, c'est que nous sommes quasi tous égaux lorsque nous naissons, mais que notre environnement socioculturel va déterminer finalement notre sexe.
Oui, en grande partie. Alors il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que, par exemple, sur le plan hormonal, hein, donc les garçons ont un taux de testostérone beaucoup plus élevé que les filles.
Ce qui expliquerait peut-être leur violence, parfois
Leur agressivité. Je dirais plutôt leur tension. Vous savez, quand on fait des études sur des larges populations de filles et de garçons, on se rend compte qu'il y a finalement beaucoup plus de différences entre deux filles qui n'ont absolument pas la même éducation, qui n'ont absolument pas le même vécu, qu'un garçon et une fille qui seront, par exemple, dans le même lycée.
Oui, c'est-à-dire que l'origine sociale également est plus déterminante que le sexe.
Absolument. Et alors là, c'était une des difficultés, finalement, de ce livre, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui au moins deux mondes d'adolescents, si on prend les deux extrêmes. Hein. C'est qu'effectivement, il y a des milieux très favorisés où filles et garçons, aujourd'hui, ont à peu près les mêmes façons de se comporter. Les garçons sont très soucieux d'approfondir les relations, vont aussi sur les chats, font des blogs. Je dirais presque que les côtés féminins ne leur font pas peur et ils sont en harmonie avec leurs copines en général. Et puis ensuite, dans des milieux moins favorisés, alors là on a des excès et des comportements assez stéréotypés qui reprennent le dessus. Ce qu'il y a d'embêtant avec ces clichés, c'est que par exemple on dit les garçons parlent pas ou les hommes parlent pas. Que fait un garçon qui a envie de parler? S'il parle, il va se dire oh là là, mais moi on va croire que je suis une fille. Donc si vous voulez, on enferme avec ces clichés, ces stéréotypes. On enferme les garçons et les filles dans une image qu'on leur tend d'eux-mêmes. Et on les empêche de changer. Il y a des tas de garçons qui sont fleurs bleues, il y a des tas de garçons qui adorent discuter, il y a des filles qui aiment bien taper dans des ballons. Et je crois qu'il faut que la société ait cette souplesse et que l'éducation aussi laisse chacun exprimer ce qu'il a envie d'exprimer.
Bernadette Costa-Prade avec Sarah Diran, auteur de ce livre Les garçons un peu expliqués aux filles, les filles un peu expliquées aux garçons. Le titre n'est pas court, la maison d'édition c'est Albin Michel, un livre à mettre donc dans les pattes des ados, on l'a compris Sarah.
Oui absolument Florence, puisque Bernadette Costa-Prade tente en tout cas d'expliquer l'autre sexe, il permet de mieux se comprendre aussi en tant qu'adolescente ou en tant qu'adolescent. Un livre qui aborde évidemment la violence, hein. Violence entre les sexes, mais la brutalité parfois des garçons. Pourquoi ? Ce sont de vieilles brutes. Mmh. C'est un des chapitres du livre.
Et pourquoi les filles essayent de leur ressembler ? Il y a aussi des rapports de violence qui sont générés par les filles. Enfin, ça devient très tendu finalement les rapports d'ados aujourd'hui.
Peut-être exactement, et je trouve que les garçons essaient rarement de ressembler aux filles, me semble-t-il.
Alors, on est dans la caricature, oui, mais c'est vrai que ça pose ce genre de questions.
Mais je parlais de violence et je voulais juste vous signaler une brochure qui vient de sortir, qui a été donc publiée par le Bureau de l'égalité du canton du Jura, destinée aux jeunes couples, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'agressions verbales, émotionnelles, physiques dans les couples, dans les jeunes couple. Alors, une brochure qui aide à mieux être ensemble sans se détester et sans utiliser trop de violence.
Alors, on a mis tout ça sur notre site via rsr.ch sur la page de la Smala. Vous y verrez plus clair. Et puis, on vous redonne encore les coordonnées du livre qui nous a permis de passer une heure sur ces filles et ces garçons. Filles, garçons, socialisation différenciée. C'est un livre qui est sorti, donc un livre universitaire, hein, on le redit quand même.
Oui, mais alors, universitaire, mais comme le dit Micheline Calmiret en préface du livre, bien que scientifique, scientifique, cette publication a pour première caractéristique de placer la lectrice ou le lecteur au cœur de son propre développement. Et c'est vrai qu'il est donc accessible à tous, une vingtaine de chercheurs, mais soit au niveau historique, soit au niveau psychanalytique, ont regardé, ont mis leurs lunettes genre pour analyser les différences de socialisation entre les sexes, dont la mixité. On n'a pas abordé le problème de la mixité.
Mixité à l'école.
Mixité à l'école. Il y a un article de Martine Chaponnière. Mordicus en fera l'éloge ou pas, mardi à partir de 9h30.
Écoutez, Mamma Mia. La Smala.
La Smala. C'est Laurent Pavia qui a choisi la musique ce matin et c'est Jean-Philippe Zolen qui s'est amusé comme un petit fou sur ce grand sujet des filles et des garçons. C'est lui qui a donc réalisé cette émission et c'est Stéphanie Gauthier qui reste notre lien via le 021 318 1598, le numéro de téléphone inchangé. Et puis si vous avez internet, c'est encore plus pratique, rsr.ch sur la page de la Smala. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, enfin, etc., etc. On parlera la semaine prochaine entre 10h et 11h de l'infidélité. Voilà.
Plutôt masculine ou féminine?
Eh bien, ça dépend, Sarah. Il faut suffit d'écouter la semaine prochaine. Ce sera à partir de 10h. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien. Il est déjà 11h.
La Smala, avec le réseau de pharmaciens Pharmacie Plus.